Bonsoir, merci à tous d'être venus et merci à Éric Plamondon d'avoir accepté l'invitation de la librairie Mola pour parler de son dernier livre, Takawan. Alors Éric dit qu'il y a des personnes qu'il connaît dans la salle, vous pouvez les saluer.
Je salue les personnes que je connais, même celles que je ne connais pas.
Alors, Takawan, il y a un dessin de poisson en couverture. Qu'est-ce que c'est qu'un Takawan ?
Un Takawan, c'est un saumon qui, à une certaine époque de son développement, est appelé par les Micmacs de la réserve Restigouche au Québec, en Gaspésie. Il est appelé Takawan. C'est le saumon qui est assez grand, qui est assez vieux. Là où il est né, dans sa rivière de naissance, vers 2-3 ans, il descend la rivière, il part en pleine mer pour grandir et manger et faire son voyage dans l'Atlantique. Et quand il revient pour la première fois dans sa rivière de naissance, c'est là où il est un Takawan, que les Micmac l'appellent Takawan.
Alors c'est un saumon adulte qui a vécu, et c'est aussi un rebelle, si vous voulez bien. On va commencer par une lecture, parce que ça nous mettra dans le bain. Vous lisez ou je lis ?
Comme vous voulez, c'est vous qui décidez.
Get out.
Get out. Donc c'est des courts chapitres, on parlera peut-être de la forme plus tard. Le titre du chapitre est « Get out ». Quand le saumon remonte la rivière, il ne se nourrit pas. Il a fait le plein en mer, il a fait ses réserves et toute son énergie est tendue vers un seul but, atteindre la fosse dans laquelle il va se reproduire. Contrairement à une truite qui vient manger une mouche ou un ver au bout d'un hameçon parce qu'elle a faim, le saumon ne gobe pas la mouche pour s'alimenter. En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi le saumon vient mordre un paquet de plumes qui imite un insecte. Mais pour William, un des personnages, dont les ancêtres prenaient le saumon au harpon ou dans des barrages coupant la rivière, le saumon est avant tout un animal qui protège son territoire. Comme d'autres pêcheurs, William pense que si le saumon finit par attaquer une mouche, c'est simplement parce qu'elle l'énerve, parce qu'il veut qu'elle lui fiche la paix. L'art de la pêche à la mouche revient à harceler la bête en train de se reposer tranquillement dans une fosse pendant son long voyage de retour. Tout le jeu de la patience est là. Taquiné, agacé, tourmenté, jusqu'à ce que l'adversaire craque et se jette sur l'intrus. Quand un saumon gobe une mouche, c'est sa manière de dire « Fous-moi la paix, crisse-moi patience, get out ».
Alors, c'est très bien que vous ayez lu ce premier extrait avec une pointe d'accent, québécois.
Des fois, ça s'y prête, ouais.
Il y a très peu de mots québécois ou micmac ou crisse-moi patience, c'est un des rares, et ça se comprend, enfin ça se lit très 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 bien. Donc c'est le nom du saumon adulte, Takawan. C'est aussi le nom d'un des personnages, on en parlera tout à l'heure, d'un personnage indien. Et le livre... On parlera de la forme, parce que le livre se lit d'une seule traite, et en même temps c'est une mosaïque de courts paragraphes avec des choses dont on ne sait pas pourquoi elles sont là et qui font sens plus tard. C'est à la fois un polar, mais c'est beaucoup un livre sur les Indiens, sur les Amérindiens. Et vous dites que le problème des Amérindiens du Québec et même de tout le nord-est de l'Atlantique, c'est qu'ils n'ont jamais eu de chevaux. Et des Indiens sans chevaux, c'est un peu comme des pirates sans bateau ou des cow-boys sans chapeau. Ça fait moins sérieux, c'est moins glamour. Hollywood a imposé l'équation suivante, Indien égale chevaux. En expulsant les Indiens sans monture de l'écran, Hollywood les a chassés de notre imaginaire. Alors, les Hurons de l'ancienne Lorette ont continué à vendre des paniers en osier fait main et des tomahawks en plastique made in China. Est-ce que ce livre est est-ce que c'est une cause perdue, d'abord, les Amérindiens du Québec, et est-ce que c'est votre cause ?
Oui, Takawan me permet de... La genèse de Takawan, c'est un peu ma surprise, justement, de découvrir cette réserve indienne de Gaspésie du Québec. Moi, j'ai quand même passé presque 30 ans au Québec. Je suis venu vivre en France un jour avec un voyage en famille. On est parti faire notre tour de la Gaspésie, visiter. Et j'ai vu que là-bas, au sud de la Gaspésie, il y avait une réserve indienne, la réserve de Restigouche, où il y avait 3 à 5 000 Micmacs qui vivaient. Et que pendant toute ma vie québécoise, j'en avais jamais entendu parler. J'ignorais que ça existait. Et donc, d'une certaine manière, oui, c'est comme ça que c'est devenu ma cause. Et ma cause étant une réhabilitation de ma mémoire dans un premier temps et de la leur dans un second temps, d'autant plus que je parle de mémoire et du fait que moi, je ne savais même pas que ça existait. J'étais au Salon du Livre de Montréal au mois de novembre dernier, et il y a un jeune homme qui est venu faire signer son exemplaire de Takawan. Donc, il faut savoir que les événements que relate Takawan, ça se passe en 1981. Et il me dit, moi, je suis né en 1981, j'ai lu votre livre, j'ai grandi en Gaspésie à 100 km de où tout ce que vous racontez s'est passé, et moi-même, je ne le savais pas. Et donc, il y a vraiment, voilà, il y a un problème de mémoire, effectivement, il y a une cause, d'une certaine manière, à défendre, ne serait-ce que celle de leur existence.
Alors, je disais, Takawan, c'est deux clés, le saumon et l'Indien. Il y a un autre nom propre qui est vous venez de le prononcer, qui est une clé de ce livre, c'est Ristigouche. Donc, c'est à la fois une rivière, une bataille, une réserve et des événements dramatiques, vous venez de le dire, qui sont passés. C'est l'actualité de 1981, donc c'est pas si vieux. Est-ce que vous pouvez développer ce nom qui évoque la géographie, l'histoire et la violence?
Ristigouche, je parle dans Takawan justement de la genèse de ce nom, de cet ancien nom Micmac, qui au départ s'appelait Loustougouche, et les Français en ont fait Ristigouche. Ristigouche, moi, dans mon imaginaire de jeune Québécois qui aimait aller pêcher, c'était d'abord la rivière, juste la rivière, qu'on écrivait souvent avec un I pour Ristigouche, et qui est une des rivières à saumon les plus célèbres en Amérique du Nord. Il y a plein de... Tous les grands présidents américains qui aimaient pêcher le saumon sont venus dans ce coin du Québec-là pour aller taquiner Salmo Salar sur cette rivière-là. Et il y a aussi le territoire qui est devenu... La rivière s'appelait Ristigouche, le territoire s'appelait Restigouche avec un E pour différencier à la fois la rivière et le territoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir été baptisé pendant un demi-siècle Ristigouche, les Micmac, à la fin des années 80, ont redonné le nom d'origine à la réserve. Et maintenant, quand vous arrivez, vous avez un panneau sur lequel est écrit « Loustougouche », comme il est écrit dans le roman. Et donc, c'est un lieu... je vous laisse...
Et les Micmacs, c'est donc ces Indiens sans chevaux et sans beaucoup de chance, en fait, dont l'histoire irrigue tout le roman. Alors, c'est un polar, c'est un roman... c'est un polar, c'est un roman noir qui finit... On va pas divulgacher,
mais
qui finit pas trop mal. est-ce que donc les Micmacs, ces Indiens, sont les parents pauvres du Québec, qui lui-même se vit comme parent pauvre du Canada? Est-ce qu'on est toujours le minoritaire de quelqu'un?
Alors oui, dans le cas des Micmacs de Ristigouche, c'est très flagrant, et c'est justement pour ça que ça m'intéressait cette bataille qui a eu là. Alors ça m'intéresse pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut savoir qu'il y a eu une première bataille à Ristigouche en 1760. C'est là qu'a lieu la dernière bataille navale entre la France et l'Angleterre pour avoir la mainmise sur le Canada. C'est là que le Canada bascule de la francophonie du côté anglais.
La fin de la Nouvelle-France.
Ou d'une certaine manière, oui. On parle souvent, enfin de moi qui ai grandi au Québec, dans l'histoire officielle, c'est 1759, la bataille de la plaine d'Abraham, la France perd. Mais pendant tout l'hiver, on espère que des renforts vont venir prêter main forte pour une prochaine bataille et qu'on va peut-être réussir à s'en sortir. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le 10 avril 1760, les 5 bateaux qui vont venir prêter main forte aux Français coincés à Québec, partent de Bordeaux. C'est des bateaux qui ont été construits à Bayonne. Et le Machaut, entre autres, qui est le bateau de guerre qui mène la danse. Bon, ils n'ont pas de chance parce qu'il y en a un qui se fait capturer par les Anglais, l'autre qui fait naufrage, il arrive à Troyes. Puis quand il arrive dans le fleuve, il arrive trop tard. Les Anglais sont déjà là. Donc, ils vont se cacher dans la baie des Chaleurs, qui est à l'embouchure de la rivière Ristigouche. Et va avoir lieu là, en 1760, la bataille de la Ristigouche, bataille navale, où les Français perdent. Et ce qui est intéressant pour moi, en tant que Québécois et Canadiens, c'est que se joue là, à ce moment-là, la bataille. Il y a les Anglais, il y a les Français, il y a des Acadiens exilés qui sont venus aussi se réfugier dans le fond de la baie des Chaleurs, et il y a les Indiens. Et 200 ans plus tard, en 1981, va avoir lieu ce qu'on appelle la bataille du saumon, au même endroit, c'est-à-dire le gouvernement du Québec dit aux Indiens, vous n'avez plus le droit de pêcher le saumon, parce que vous mettez les saumons en danger, vous en pêchez trop, il n'y en aura plus. Bon, quand ils leur disent ça, les Micmacs pêchent en moyenne 5 à 10 tonnes de saumon par année. Il y a des chalutiers au bout du fleuve Saint-Laurent qui en pêchent 3000 tonnes. Mais c'est la faute des Indiens. Et c'est d'autant plus de leur faute que c'est là où le côté politique embarque. Parce qu'en 1981, c'est la réélection du gouvernement québécois qui, un an plus tôt, a perdu le référendum du Québec. Il perd son référendum, qui était, et le but du référendum, c'était de dire le Québec veut une culture distincte, on a une langue distincte, on veut notre territoire, on veut être maître chez nous. Et un an plus tard, les Indiens Mi'kmaq disent exactement la même chose sur le territoire du Québec. Mais ils dépendent du gouvernement fédéral. Ça peut être un peu compliqué comme ça, c'est plus clair dans le livre. Mais c'est ce qui est intéressant justement dans cette crise-là, c'est cette tension-là de voir que le Québec réclame ce qu'il n'a pas eu du Canada. Les Mi'kmaq lui demandent la même chose. Ils ne veulent pas le donner aux Mi'kmaq non plus en disant « Ben non, vous êtes au Québec ». Et puis de toute façon, c'est aussi une manière de foutre le bordel dans les relations fédéraux-provinciales, parce que bon, le Canada est une fédération, etc. Mais, donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles ce moment avec les Mi'kmaq est emblématique, en sachant qu'il y a d'autres réserves au Québec, qu'il y en a plus. En général, justement, quand on pense aux réserves indiennes, et c'est aussi pour ça que celle de Restigouche m'intéresse, on pense au nord. On est dans le bois, on n'est pas loin de la toundra, ils sont là-bas, les Indiens, on n'entend pas parler. Mais comme je disais tout à l'heure, et ma propre surprise de faire le tour de la Gaspésie et de trouver une réserve là, c'est que là, on n'est pas dans le fin fond du bois. Là, on est à la frontière entre le Québec, le Nouveau-Brunswick. On fait 200 km, on est dans le Maine, en Nouvelle-Angleterre. Donc, on n'est pas perdu n'importe où. Et pourtant, ils sont là. C'est une longue réponse pour une courte question. J'espère que je ne parle pas trop.
Non, c'est très bien. Mais on peut enchaîner sur une lecture. En fait, c'est vraiment... On parlera tout à l'heure de la forme, mais c'est vraiment un roman. Mais là, on ouvre plein de petites fenêtres parce que le livre est fait de courts paragraphes avec toutes ces fenêtres. Il y en a une qui s'appelle Terre natale, et je trouve que ça serait intéressant de le lire.
Terre natale, c'est un drôle de concept, la terre natale. Ce sont de drôles de concepts, le territoire, la culture, la langue, la famille. Comment ça fonctionne dans la tête des humains? Ils sont les enfants de leurs parents, ils naissent au sein d'une communauté, à un moment précis, quelque part. Mais d'où vient cette incroyable force collective qui mène le monde depuis toujours? Défendre son territoire, son identité, sa langue. D'où vient cette nécessité, comme innée, depuis le fond des âges, qui veut que l'espèce humaine se batte et s'entretue au nom d'un lieu, d'une famille, d'une différence irréductible? Pourquoi mourir pour tout ça?
Merci. Donc, toutes ces petites pauses, ces courts paragraphes, en fait, le livre se lit comme un roman parce que c'est un roman, mais il n'y a pas marqué roman sur la couverture. Parce que c'est un roman, il y a des personnages, Océane, Pierre, Caroline, Yves, William, mais si on commence à parler des personnages, on risque donc raconter l'histoire. C'est un livre qui se lit... D'un bout à l'autre, on ne lâche pas, il y a vraiment un fil, mais il y a ces petites pauses, ces petites fenêtres ouvertes sur l'histoire, la géographie, la politique. Donc c'est un roman qui tricote lui-même d'autres genres. Il y a l'histoire d'amour, il y a le polar noir, il y a une enquête, mais c'est aussi une encyclopédie où on croise Cléopâtre, Céline Dion. Alors pourquoi ces deux personnages secondaires, là, Cléopâtre et Céline Dion?
Cléopâtre, je pense que l'anecdote est assez extraordinaire quand même, parce que, bon... On va pas dévoiler l'intrigue, mais non. On va dévoiler le chapitre sur Cléopâtre. Parce que Cléopâtre, ce que j'ai appris... Donc moi, j'aime beaucoup faire des recherches quand j'écris. J'aime apprendre quelque chose quand je lis. Et donc, quand j'écris aussi, j'aime apprendre quelque chose et j'aime que les lecteurs apprennent quelque chose. Et Cléopâtre, c'est extraordinaire. Quand je suis tombé, je ne sais plus où, là, parce que je fais beaucoup de recherches, mais j'ai appris que quand elle aimait la pêche... Au saumon ou à d'autres poissons, mais a priori au saumon, mais comme c'était une grande reine, une souveraine, c'était pas question qu'elle revienne bredouille quand elle partait à la pêche. Donc, il y avait des jeunes plongeurs qui étaient engagés, qui avaient déjà pogné du poisson et qui plongeaient là où elle pêchait sous le bateau sans qu'elle le sache pour aller accrocher des poissons à son hameçon pour être sûr qu'elle allait repartir avec une bonne pêche. Et ça ne dit pas la fin du chapitre parce que je fais une pirouette avec cette conclusion-là dans le chapitre, mais je vous la laisse le découvrir.
Et Céline Dion?
Céline Dion, c'est emblématique du Québec. Voilà, quand on parle, c'est surtout depuis la France. Mais en faisant mes recherches, j'ai été très étonné. Moi, j'avais un peu l'image de ce début-là. Mais voilà, la première apparition télévisée de Céline Dion se passe au même moment où les 300 policiers débarquent sur la réserve de Restigouche en disant aux Indiens, sortez vos filets, vous n'avez plus le droit de pêcher ici, comme vous faites depuis 10 000 ans, en gros. Et là, à ce moment-là, j'aimais bien ce paradoxe, cette tension entre voilà, les débuts de l'histoire de Céline Dion, qui est super glamour. Là, à l'époque, elle n'est pas encore ce qu'elle début, est-ce qu'elle va devenir. Voilà. Elle est petite, elle ne sait pas refaire les dents encore, etc. Mais... Et voilà, enfin, oui, comme vous disiez tout à l'heure, vous parlez de tisser des chapitres, la manière dont ça se tisse, pour prendre une expression québécoise, justement, pour moi, c'est le côté casse-tête du roman, c'est-à-dire puzzle, parce qu'au Québec, on ne dit pas un puzzle, on dit un casse-tête. Donc, ces morceaux à mettre petit à petit les uns avec les autres, à mesure qu'on lit, dans l'ordre ou dans le désordre, mais je pense que donne une mosaïque, justement, que ce soit du Québec, de l'Amérique, et même un peu de la France, avec le personnage de Caroline.
Ce que vous expliquez bien dans la note de l'auteur en fin d'ouvrage, vous dites que c'est une œuvre de fiction, mais avec qui s'appuie sur une base documentaire. Donc, on apprend des techniques de pêche. On a une explication très détaillée pour construire un piège à ours.
Ça peut toujours servir.
Oui. Et l'orignal surtout, parce que l'orignal c'est très technique. Donc, on a vraiment toutes les informations pour capturer un orignal. On a une recette de cuisine.
Oui,
vous pouvez peut-être donner.
J'ai failli vous en apporter ce soir, mais c'est une. Non, je ne vais pas vous la lire, mais c'est une soupe aux huîtres. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà mangé de la soupe aux huîtres ici, mais. Bon, sûrement pas avec du gros d'ours, parce que l'original, on met du gros d'ours. Mais je pense que.
C'est peut-être la difficulté, c'est de trouver des huîtres. Voilà, ici, du gras d'ours.
Voilà,
peut-être.
C'est plus compliqué, mais on a le droit de mettre du beurre à la place.
Donc, c'est aussi bon.
Je ne sais pas. L'histoire ne dit pas.
Donc, à propos de ce genre mosaïque, j'aimerais bien savoir comment vous écrivez. Est-ce que vous écrivez d'abord le fil rouge? Je l'ai dit, c'est un livre qui ne se lâche pas. La lecture est extrêmement linéaire. Est-ce que vous écrivez d'abord le fil conducteur ou d'abord les tiroirs?
Eh bien, un peu les deux. Je vais être obligé de faire de l'autopromotion ici. J'ai écrit une trilogie avant ça, trois romans qui parlaient de trois personnages réels où j'ai développé ce style-là qui m'était inspiré, moi, de mon auteur fétiche, qui est Richard Brodigan, qui écrit beaucoup avec de courts chapitres, etc. Et donc, au départ, le premier livre que j'ai écrit, ça parlait de Johnny Weissmuller, le premier Tarzan du cinéma parlant, le premier homme à nager le 100 mètres sous la minute. Et donc là, j'avais un personnage qui donnait, biographique, qui donnait cette espèce de trame, et donc qui m'a amené à développer, c'était plus facile, on va dire, de faire des allers-retours, des morceaux, puisque j'avais un squelette qui était un squelette dans tous les sens du terme, parce que ce pauvre Johnny est mort en 1984. Mais c'est vrai que j'ai repris ça de manière... Je l'ai travaillé différemment dans Takawan. Les moments narratifs de l'histoire et de l'intrigue, c'est quelque chose que j'ai développé de manière différente pour moi, qui n'était pas tout à fait le cas dans la trilogie. Mais disons que c'est mon travail d'avant que j'ai eu envie de poursuivre en le rattachant plus à une vraie intrigue, en poussant plus loin des vrais personnages. Et tout ça se fait quand même avec beaucoup d'allers-retours. Moi, j'écris beaucoup et je jette beaucoup. Donc, à un moment donné, ça s'organise à mesure. Je connais pas la fin de mes livres avant de commencer à écrire. C'est comme quand je lis, j'aime pas savoir la fin avant de commencer. Donc quand j'écris, c'est pareil. Et j'aime ça me surprendre. D'ailleurs, ça m'a surpris de la manière dont ça finissait, Takawan. Mais une fois que ça a été...
J'étais au courant quand même.
À peu près.
Ça aurait pu finir différemment.
Ah oui, ça peut finir toujours plein de possibilités.
Non, mais c'est vous qui décidez quand même.
Oui, c'est moi qui décide. Enfin oui, mais... c'est moi qui décide, mais à un moment donné, les personnages et l'histoire est dans une telle dynamique que je dessine moins. Quand même, de moins en moins. Puis à un moment donné, j'ai plus le choix d'aller là où mes personnages m'amènent et où le livre et l'intrigue m'amènent. Faut conclure avec ce qu'ils nous ont donné, ce qu'on a donné. Donc c'est toujours un travail d'aller-retour quand même. Même s'il y a effectivement un fil conducteur, les morceaux, des fois, il y en a que j'ai jetés, il y en a que j'ai rajoutés à la fin. Je remixe un peu. J'ai fait de la vidéo à un moment donné dans ma vie et c'est vrai que j'ai ce côté montage qui me plaît bien aussi.
Alors, il y a vraiment un fil conducteur très tendu, je l'ai dit, c'est un polar dont on ne doit pas révéler la fin.
C'est un polar, mais il y a des sites de polars qui ont parlé de mon livre, qui sont dédiés au polar et qui disent pour eux que ce n'était pas un polar, mais que c'était bien quand même.
Ah, mais ils ont quand même parlé de vous sur des sites de polars.
Quand même, voilà, tout à fait.
Et c'est vrai que c'est inclassable parce que à la fin de ce polar, de ce roman, il y a une table des matières. Donc Le Pont, Céline Dion, Léviathan, Caboto, La Bonne Sainte-Anne, voilà. Salmo Salar, il y a un extrait du journal télévisé, Blancheur, Rhin, Traîtrise. Enfin, il y a vraiment un peu de tout.
J'aime beaucoup que vous parliez des chapitres comme ça, que vous les lisiez, parce que dans mon second roman, où je parle de Richard Brodigan, qui écrivait plein de petits chapitres, je trouvais toujours que sa table des matières, c'était un chapitre en soi, de par ses surprises et de la manière dont il titrait ses chapitres. Donc c'est vrai que pour moi, c'est important.
Toboggan, tournant, oui, c'est très étonnant. Et si vous voulez bien lire encore un extrait qui est un peu plus long, mais qui est très étonnant, et pour vos lecteurs des précédents de la précédente trilogie, ben il y a aussi un écho, c'est Droit fil.
Le droit fil. Au complet ?
Ah oui.
Ah ouais. Ah oui, il est long celui-là, il fait 2 pages, hein, attention.
C'est un des plus longs, oui, c'est vrai.
Ah, il y a encore des gens que je connais qui sont arrivés. Je les salue au passage. Je suis de plus en plus, ça va, plus je suis intimidé, donc en plus maintenant il faut que je lise. Alors. Le droit fil. Parce qu'il n'avait pas d'argent et qu'elle voulait que sa fille soit bien habillée pour aller à l'école, elle est devenue une remarquable couturière. Quand la mère de Yves Leclerc allait à l'école, elle était peut-être la plus pauvre, mais elle était la mieux habillée. Sa grand-mère a gardé sa machine à coudre toute sa vie. Sur une petite table en bois montée sur des pattes en fonte, très lourde, ornée de demi-lunes entrelacées, elle ressemblait à un chat noir faisant le dos rond. Le métal patiné était doux et lisse, et le volant, à droite, ressemblait à une roue de gouvernail en cuivre. Sa grand-mère voguait sur une mer de tissu. Au milieu était gravé dans le fer le nom de la marque, Singer. Au Québec, on dit Singer. Il avait 7 ans et il aimait regarder coudre sa grand-mère pendant des heures. Elle ne voulait pas le laisser utiliser la machine, mais lui expliquait les choses. L'aiguille, la navette, l'alignement, la hauteur, la manière d'engager et de dégager le mécanisme, de tourner la roulette et de garder le rythme sur le pédalier. Un jour, elle lui a expliqué le droit fil. Quand on taille une pièce de tissu, il y a tous ces petits bouts perpendiculaires qui dépassent après la coupe. On a beau essayer de couper le plus droit possible, dans la trame, il y a des brins qui s'échappent, qui ont été sectionnés dans leur longueur. Pour trouver le droit fil, il faut enlever tous les fils de l'extrémité de la pièce de tissu jusqu'à ce qu'on arrive à enlever un fil qui en fasse toute la longueur. C'est le droit fil. Il donne la limite, la frontière du tissu à partir de laquelle on peut commencer à travailler. Il sert d'équerre, en quelque sorte. Dans son âme d'enfant, il y avait là quelque chose de magique. Plus tard, devant une situation complexe, Yves essayait toujours de trouver le droit fil. Quand sa première blonde à la polyvalente l'avait lâché pour un gars de l'équipe de hockey, il avait cherché le droit fil. Au cégep, quand son coloc s'était retrouvé aux urgences après avoir avalé une boîte de pilules, il avait cherché le droit fil. Quand son père s'était mis à boire, il avait cherché le droit fil. Le jour où son ex lui avait demandé de choisir entre une job de bureau à Québec et une job dans le bois en Gaspésie, il avait trouvé le droit fil. Maintenant qu'il avait démissionné, qu'une jeune Micmac se trouvait sous sa protection, que 2 hommes étaient morts et qu'une partie du Québec voulait qu'on en finisse une fois pour toutes avec les Indiens, Leclerc cherchait, comme jamais, le droit fil.
Merci. Donc c'est un des... Peut-être c'est pour ça qu'il est le plus long, un des plus longs. C'est un des chapitres qui tricote justement la pause un peu documentaire et puis le fil qui rattrape le polar
de l'histoire.
Et c'est presque emblématique ou métaphorique de votre système de construction. On a le droit fil, enfin. On a tous ces petits fils dont on vient de se demander, mais pourquoi est-ce que je lis quelque chose sur Cléopâtre, sur Céline Dion ? Et finalement, tout fait sens et c'est véritablement un puzzle et on comprend mieux où vous nous emmenez, ou comme vous le dites, où vos personnages vous emmènent. Et c'est très habile et très addictif. Vous dites, parce que. Bon, le saumon est en couverture, Takawan, ça veut dire saumon, et le saumon, il fait partie de ces personnages récurrents tout au long du livre. Et vous dites, le saumon qui bondit et lutte, un même spectacle pour 3 hommes différents, 3 rêves pour un même poisson, chacun y projetant sa propre histoire, chacune différente, mais tournée vers un même but, saisir quelque chose qui nous échappe. Alors ces 3 hommes, à ce moment-là du livre, c'est un garde-chasse, un indien et un anthropologue. Est-ce que ce croisement de points de vue, c'est la clé de votre méthode, ou une des clés de votre méthode ?
Disons que c'est plutôt ma méthode qui m'a amené à chercher ce genre de type d'archétype, de personnages qui ont effectivement chacun un discours très... qui sont les représentants d'un discours en particulier. Yves étant le Québécois de base, mais William étant le côté plus... Voilà. William est le plus le représentant des Amérindiens. L'anthropologue, c'est le côté science et histoire dans l'histoire qui permet de ramener aussi des connaissances un peu plus profondes sur l'histoire du Québec. Mais oui, dans ce cas-ci, enfin, pour moi, c'est ce côté, ce que j'aime dans la littérature, dans les romans en général, ce côté un peu choral, d'avoir justement les discours de tout le monde, que tout le monde puisse présenter son côté de la médaille. Enfin, il n'y en a que deux, mais chacun a son point de vue, quoi. Et là, et c'est dans ce mélange de points de vue-là, je pense que se crée quelque chose, qu'il y a un plus qui peut en sortir, ne serait-ce que par la lecture du lecteur.
Mais sauf que là, c'est davantage que des points de vue. Il y a des enjeux, ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Donc, est-ce que finalement, si chacun a de bonnes raisons, est-ce que tout le monde a raison ?
Ben, tout le monde a raison par rapport à lui-même. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est la confrontation de ces divers... Tout le monde pense toujours qu'il a raison quand on défend une cause. Donc, et là, on les voit bien, tous les trois ou les quatre même, parce qu'il y a aussi Caroline qui elle, a le point de vue de l'immigré, de la Française, qui vient passer un an au Québec. Et donc... Oui, ils défendent bien sûr leur point de vue, mais c'est, je pense que la force du roman, c'est de pouvoir les mettre ensemble, les confronter dans un même endroit, dans un même milieu, qui est le texte, et que de là, il se passe quelque chose, quoi. Enfin, pour moi, la littérature, c'est toujours ça, justement, ce truc un peu magique de comment, du fait de mettre l'ensemble, alors là on parle de discours des personnages, mais il y a aussi le discours de l'histoire, le discours scientifique, anthropologique, etc., qui dépasse les personnages, comment ça nous amène ailleurs et va donner une nouvelle connaissance presque sur le monde, justement, ou sur cette histoire-là en particulier, et qui est là vraiment le travail qui dépasse l'auteur et qui est vraiment de l'ordre, enfin c'est vraiment la place du lecteur à ce moment-là, de dire moi qu'est-ce que ça vient me dire à moi, m'apprendre.
Oui, vous les laissez se dépatouiller, mais à la fin, que le meilleur gagne, et vous y êtes quand même pour quelque chose. Arrêtez de dire que...
oui, après, moi, j'ai mon point. Enfin, j'ai le côté qui me plaît le plus, effectivement. Mais ça c'est l'histoire du livre comme tel. Mais je pense qu'il y a toujours plus, comme le dit la dernière... Comme l'a dit la dernière citation latine, je vais vous la lire, je vais vous lire la fin. Vous y croyez à ça ? Enfin, on va pouvoir vous donner le punch, parce que le punch, c'est piscator non solum piscatur, piscatur. Il y a dans la pêche plus que la pêche. Et je pense qu'il y a dans chaque texte de fiction plus que la fiction.
Alors moi, comme mon latin était un peu loin, piscator non solum piscatur, quand j'en suis arrivée là, je suis allée chercher la traduction. Et je ne suis pas tombée sur des sites de traduction latine. Je suis tombée sur tout un tas de sites de pêche récréative au Québec. Et c'est leur cri de guerre.
Il y en a, oui.
Donc, c'est des sites avec des pêcheurs arborant des saumons de 3 mètres de long. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette citation à la fin ? C'est ironique ou c'est... Donc, c'est la pêche, ça n'est pas seulement attraper du poisson.
Oui, voilà. C'est pour moi, c'est emblématique de l'univers du pêcheur. On dit tout, enfin, il y a plein de gens qui... Quand on n'est pas pêcheur, on ne comprend pas pourquoi on peut aller passer 1, 2, 3 jours, une semaine, rien pogner et revenir et être super content quand même.
Rien
attraper, rien pogner. Quand on ne pogne pas de poisson, rien attraper et que ce n'est pas grave parce qu'on a eu l'attente et voilà, je pense que c'est dans ce livre-là aussi. Chez les vrais pêcheurs, l'attente de la prise est presque aussi agréable que quand ça mord. Bah, j'exagère
du
un peu.
Du coup, la pauvre Cléopâtre, on l'a privée de ce...
Mais c'est bien ce que je dis à la fin.
On l'a privée de ce plaisir-là.
Et voilà, exactement. Comme quoi, elle ne savait pas tout ce qu'elle perdait.
Bah
oui. En attrapant tout le temps quelque chose.
Alors, dans cette mosaïque donc de latin, d'anglais, on ne dit pas le job, on dit la job, parce que vous dites pas puzzle, mais vous dites job. Il y a aussi des proverbes micmac. Quel est votre proverbe préféré ?
Ben, c'est celui qui ouvre le... Enfin, non, c'est... Mon proverbe préféré, il est dans Restigouche, la novella, dont on a un petit peu parlé au début, qui vient avant Takawan et qui... Je ne vais pas trop vous en parler parce que c'est difficile à trouver, même si ça vient d'être réédité au Québec dans un livre qui s'appelle Donnacona, qui était le nom d'un grand chef indien premier que Cartier a croisé en remontant jusqu'à Québec. Je l'oublie, mais enfin voilà, non, là je peux pas vous le lire en micmac, hein, mais j'aimais beaucoup ça parce que vraiment je l'ai trouvé presque au début du projet d'écriture et c'était vraiment il était vraiment écrit sur mon mur au-dessus de mon écran d'ordinateur. Pour frayer un saumon, on doit d'abord remonter la rivière. Et c'est un peu la clé du Takawan, puisque tout le monde revient vers la source pour comprendre. Et ça fait aussi partie du travail de recherche. Et à chaque fois, voilà, pour comprendre quelque chose, il faut toujours revenir à la source.
Et justement, sur ces sources, à la fin, vous donnez toutes les sources documentaires, livres, films, etc. Mais est-ce que vous êtes allé dans cette réserve parler avec des Micmacs ?
Je suis allé à l'été 2015, oui, effectivement, parler à des Micmacs sur la réserve et pêcher le saumon. Et ouais, j'avais besoin d'y aller. Enfin, pour mes autres livres qui se passaient sur la côte ouest, j'étais déjà un petit peu allé, mais je suis pas allé juste pour ça. Mais là, oui, j'avais besoin de m'imprégner un peu plus. Et c'était, je vais vous dévoiler des choses très personnelles sur ce voyage-là, parce que ce qui m'a le plus marqué, souvent, on parle voilà. Les réserves indiennes, le problème des réserves, c'est compliqué. Est-ce que c'est vrai que c'est cette violence-là, on l'appelle les taux de suicide, l'alcoolisme, la drogue, etc. Et c'est assez vrai, même si eux-mêmes souvent disent faudrait qu'on parle d'autre chose. Là, on l'a assez dit, mais je peux comprendre aussi. Mais quand je suis arrivé sur la réserve, le premier jour, en fait, j'étais débarqué de Bordeaux depuis quelques jours à Montréal. J'avais fait la route et j'avais loué une voiture à Montréal. Je suis arrivé dans ma petite Toyota blanche sur la réserve. Je savais qu'il y avait un ancien, pas un ancien, mais je cherchais un espèce de lieu culturel qui était supposé d'avoir, je ne sais pas où, il n'y avait rien indiqué. Mais c'est quelqu'un dans une information touristique un peu plus loin, en Gaspésie, qui m'avait dit « Oui, ça doit être ouvert encore, je ne sais pas. » Et je suis arrivé devant le bureau de poste, Poste Canada, et il y avait trois dames autour d'une voiture. Et quand je suis arrivé, je me suis approché d'elles, et puis elles m'ont regardé vraiment d'un air « Qu'est-ce qu'il veut, lui ?» Elles m'ont demandé en anglais « What do you want ?» Là, j'ai dit que je cherchais j'ai répondu en anglais que je cherchais le centre culturel. Ils m'ont dit, ouais, c'est là-bas, le deuxième bâtiment, il y a peut-être quelqu'un. Et je suis allé, et en arrivant devant la porte d'entrée de ce bâtiment-là, il y a une dame qui sortait et qui m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, ben, je cherche le centre culturel. Et elle dit, mais d'où vous venez? J'ai dit, ben, j'arrive de France. Elle dit, ah, bon, ben, venez, je vais vous montrer, je vais vous faire visiter. Puis je suis parti avec elle. Puis là, elle m'a amené effectivement dans le centre culturel. Il y avait des canaux en écorce sur lesquels les enfants travaillaient, des dessins, il y avait plein de choses. On a jasé, elle a fini par me sortir les photos de mariage de sa fille l'été d'avant. On a parlé du powwow qui s'en venait, ils étaient en train de préparer tout ça. Et plus elle me parlait, puis après on a parlé de 1981, que ça a été encore très marquant pour la réserve, tous les événements qu'il y avait eu là-bas. Elle m'a parlé enfin, de plein de choses. Et plus elle me parlait, plus je me rendais compte que si, quand elle a ouvert la porte, puis qu'elle m'a demandé comme ça, moi, c'était pas calculé, d'où vous venez, si j'avais dit, j'arrive de Montréal, je suis Québécois, je serais jamais rentré. Elle m'aurait dit, c'est fermé.
Get out.
Alors que là, et donc, tout ça pour dire, le problème qui existe encore entre les Québécois et les Amérindiens, en fait, là, dans ce cas-ci, les Micmacs. Et j'en parle un peu dans le livre. Il y a une route comme ça qui traverse, qui va vers le pont, qui va au Nouveau-Brunswick. À droite, c'est la réserve. À gauche, c'est le village de Pointe-à-la-Croix. Et on sait vraiment que c'est une frontière terrible, quoi. Il y a vraiment une cassure, quoi, entre les deux.
Donc, vous pouvez être bordelais, vous pouvez être québécois, vous pouvez être canadien. Et selon l'étiquette que vous mettez en avant, ben vous serez reçu différemment. Une dernière lecture sur cette histoire de dénomination qui...
Sur les sauvages ou les bisons du Nord-Ouest ?
Les bisons, non, les sauvages.
Pas les bisons. Bon, pour une autre fois, alors.
Ouais.
Sauvages. Des Indiens. Ce sont des Indiens. On les a appelés comme ça parce qu'on croyait être arrivés en Inde. Mais non, on est arrivés en Amérique. Avec le temps, on s'est mis à les appeler des Amérindiens. Plus tard, on dira des Autochtones. Avant ça, on les a longtemps traités de sauvages. On les a surnommés comme ça, des hommes et des femmes sauvages. Il faut se méfier des mots. Ils commencent parfois par désigner et finissent par définir. Celui qu'on traite de bâtard toute sa vie pour lui signifier sa différence ne voit pas le monde du même œil que celui qui a connu son père. Quel monde pour un peuple qu'on traite de sauvage durant 4 siècles.
Merci.
Merci à vous.
Voilà. Donc c'est un livre extrêmement riche et en même temps c'est un polar. Je comprends pourquoi vous êtes sur des sites de polar, mais c'est bien davantage qu'un polar. Merci.
Merci à vous.